affinités électives. Une émission proposée par Canal Académie.
Chers amis, bonjour, vous êtes à l'écoute de Canal Académie. Aujourd'hui, nous avons l'immense joie de recevoir dans nos studios un homme que l'on qualifie habituellement de philosophe, parce qu'il faut bien une raison sociale, mais qui est un philosophe bien singulier, si bien que l'on aimerait aussi bien le qualifier de conteur, parce qu'il s'adresse à nous et développe sa pensée en racontant de véritables histoires, et aussi en créant, ce qui est encore plus singulier dans cette profession, des personnages. Des personnages au nom à la fois évocateur et curieux, parfois déstabilisant, Hermès, le grand fétiche, le malpropre, petite poussette, autant de personnages que l'on ose qualifier de concepts, car il s'agit bien de Michel Serres, vous l'aviez bien entendu reconnu, ces personnages développent tout un univers, mais un univers incertain, un univers en mutation, un univers en devenir, et c'est bien là ce qui caractérise Michel Serres, qui estime, à raison probablement, que penser, c'est anticiper, et c'est bien aujourd'hui ce qui est effectivement nécessaire dans ce monde en changement permanent qui souvent nous trouble. Il est accompagné, Michel Serres, de Sven Ortoli et de Martin Legros, qui signe avec lui un livre d'entretien, un livre dont ils vont nous raconter la genèse et les objectifs. Et c'est d'ailleurs l'objet de ma première question. Comment vous est venue, messieurs, l'idée de ce livre charmant?
Oui, ben, c'est vrai que nous côtoyons Michel Serres comme le grand public, d'ailleurs, régulièrement, que ce soit sur la radio, dans ses interventions. Il a une parole très, très éclairante, il a une pensée très profonde, mais nous avions le sentiment, à le côtoyer, que les lumières si vives qu'il jette sur notre temps, nous n'avions pas accès à sa pensée la plus profonde, et que les textes dans lesquels il avait livré ses textes, sa pensée la plus profonde, n'étaient pas toujours accessibles, difficile, et donc nous sommes allés voir Michel, et nous lui avons dit voilà Michel, est-ce que tu accepterais de raconter ta pensée, de nous livrer à la fois ton parcours biographique et philosophique, et le parcours intellectuel surtout. Et donc c'était une aventure d'ailleurs qui s'est tenue pour une partie ici dans ces locaux à l'Académie, où après chaque le jeudi, après chaque séance de l'Académie française, nous retrouvions Michel et un de ses nombreux livre sous le bras, et nous l'interrogions sur la genèse de ces concepts qui lui ont permis, et nous ont permis en réalité, de comprendre les grands moments de bascule de notre temps. Nous allons y revenir, mais les personnages qu'il a forgés sont des personnages qui nous permettent de comprendre, en les incarnant dans des personnages, les mutations, les moments de bascule qui ont été les nôtres depuis deux siècles. Et donc voilà le contrat de lecture, si je puis dire, de ce livre qui était passionnant, qui était à la fois une rencontre philosophique et amicale avec un grand penseur de notre temps, mais aussi un parcours de la manière dont une pensée s'était élaborée en essayant de capter dans des personnages les changements de notre temps. Hein, Sven, je crois que tu partages mon enthousiasme.
Je partage et l'enthousiasme et ta présentation, évidemment, je la trouve tout à fait juste. J'ajouterais simplement que dans cette répartition des tâches entre Martin et moi, Martin est le philosophe, si je peux le résumer comme cela. Moi, je suis plutôt le scientifique, si je puis également le résumer comme ça, en tout cas celui qui a un goût pour les sciences. Et que c'était une des clés de ce livre et de l'approche qu'on peut avoir de Michel Serres, puisque Michel Serres était un des rares philosophes, un des rares penseurs de notre temps qui établit une passerelle entre le monde des sciences et le monde de la philosophie, et qui va donc qui a la culture suffisante, et la culture mathématique, la culture physique, la culture biologique, pour aller chercher les bascules dont parlait Martin, là où elles sont, c'est-à-dire partout autour de nous. Et partout autour de nous, c'est dans le monde des techniques, c'est dans le monde de la biochimie, de la biologie, des manipulations génétiques, du nucléaire, etc., etc.
Et vous, Michel Serres?
Je voudrais ajouter d'autres mots à ce que dit Martin et Sven tout à l'heure. Il est vrai, pour répondre un peu à ce qu'a dit Martin, que toute ma vie, les gens se sont exprimé devant moi en disant « quand tu parles c'est clair, quand tu écris c'est impossible à lire, c'est difficile ». Et c'est là-dessus que Martin a réagi un peu et a dit « en effet, ça serait intéressant de faire un livre écrit qui soit parlé ».
Oui, c'est-à-dire, le livre d'entretien était la réponse.
Voilà, qui est une réponse à cette double difficulté oral écrit, vous voyez. Alors, je ne sais pourquoi, parce que bon... Et d'autre part, pour répondre à Sven aussi, je voudrais quand même dire que c'est la grande tradition de l'histoire de la philosophie que les philosophes soient des scientifiques. Platon en était un, Aristote en était un, aussi bien Descartes, Leibniz, etc., jusqu'à récemment. Ce n'est que récemment que la philosophie a un peu abandonné la filière scientifique. Et donc, ce n'est pas un phénomène très nouveau, mais c'est un phénomène profondément inscrit dans l'histoire de la philosophie, qu'il y ait vraiment une sorte de communauté entre la pensée scientifique et la pensée philosophique.
En revanche, à l'époque où vous avez commencé votre carrière, on tombe pile dans cette parenthèse et ça vous a joué des tours, d'après ce
que... Oui, mais alors pour répondre aux deux maintenant, je dirais que... En effet, j'ai eu beaucoup de chance, c'est-à-dire que j'étais mathématicien à l'origine et j'ai assisté à la transformation des mathématiques au moment où c'est devenu les mathématiques dites modernes, vous voyez, et puis d'ailleurs à la bascule inverse par la suite, que j'ai assisté à beaucoup de transformations de la physique, à la fois la mécanique quantique, la théorie de l'information. Et puis, d'autre part, comme le disait Sven, j'ai été ami avec Jacques Monod et par conséquent, j'ai appris de la biochimie au moment même où les philosophes pensaient à la mode de la physiologie d'avant la guerre. Vous voyez. Donc, il y a eu des bascules scientifiques, des révolutions scientifiques intéressantes qui m'ont appris ce que c'était que le changement.
Ce mot de bascule, vous venez de l'utiliser à plusieurs reprises, il semble être central à la fois dans le livre et dans votre œuvre.
Oui, en effet, il ne faudrait pas laisser entendre et laisser croire que Michel Serres n'a fait que formaliser dans un langage accessible les révolutions scientifiques de notre temps. Je crois que sa pensée est beaucoup plus profonde que celle-là, et le terme de bascule, en effet, le synthétise peut-être. C'est quoi pour Michel Serres des bascules ? Ce n'est pas uniquement des nouveaux savoirs scientifiques ou de nouvelles techniques qui surgissent, c'est beaucoup plus profondément la manière dont ces sciences et ces techniques ne sont que la pointe, ou je dirais le vêtement idéologique, le vêtement langagier, le vêtement de connaissance, de transformation du monde lui-même. C'est le monde qui se métamorphose, et les sciences et les techniques participent de ce changement, mais elles ne suffisent pas à le saisir. Et c'est pour ça qu'on a besoin de personnes comme Michel Serres, c'est-à-dire des philosophes, qui ont cette double culture scientifique et philosophique, pour pouvoir creuser sous la science, mais informer du langage scientifique, pour comprendre les bascules de notre temps. Et je voudrais donner juste, par exemple, un exemple, c'est que on vit aujourd'hui la révolution des communications, dit-on. Mais en 1960, cette révolution était quasi invisible, imperceptible. Eh bien, Michel Serres, à travers le personnage de Hermès, il nous en dira sans doute quelques mots dans un instant, a eu à la fois une intuition de voir dès les années 60 surgir un nouveau paradigme, ces paradigmes de la communication, que ce soit dans le monde du travail, dans le monde de la science, mais aussi dans le monde de la vie de tous les jours, que la communication allait devenir le paradigme général de la manière de faire, de penser, d'agir de l'humanité. C'est une énorme bascule. Ça, il fallait le saisir. Il l'a saisi parce qu'il y avait quelques travaux scientifiques qui commençaient à émerger, il nous le dira sans doute dans un instant, qui commençaient à dire cette transformation. Mais il faut quand même se replacer dans les années 60. L'Internet n'existe pas. Les grands journaux, il y a quelques offices de presse, mais qui sont encore liés au pouvoir. Enfin, l'indépendance de cet espace nouveau de la communication n'existe pas. Et il écrit Hermès aux alentours de 1960 et il nous dit « Nous sommes en train de basculer dans un nouveau monde » à une époque, il faut quand même s'en rappeler, où les figures dominantes politiquement ou intellectuellement, actuellement, c'est le marxisme, il y a encore l'URSS en face, qui incarne l'avenir, c'est-à-dire un avenir fondé sur le travail matériel. Et il dit « en réalité, nous sommes en train de vivre quelque chose de... C'est une énorme bascule, et l'avoir perçu à ce moment-là relève, témoigne tout de même d'une acuité, d'une sensibilité, d'une intuition qui est beaucoup plus profonde simplement que le fait de prendre connaissance et de livrer à un public élargi des révolutions scientifiques et des techniques. Voilà ce qui me semblait important de marquer.
Oui, c'est vrai qu'à cette époque-là, Martin a raison de le dire, on commençait à percevoir un tout petit peu la baisse de ce qu'on appelait l'école bleue, vous voyez. C'est-à-dire ceux qui travaillaient à la production commençaient à sensiblement à baisser en nombre et en efficacité. Et on voyait arriver un peu la croissance des cols blancs, c'est-à-dire ceux qui travaillaient, disons, dans les services ou dans la communication. Et effectivement, il a raison de dire, Martin, qu'à l'époque, c'était Prométhée qui l'emportait. C'est-à-dire que c'était la production, c'était le marxisme, en effet, et la philosophie du travail issue de la révolution industrielle. Et en effet, c'est dans les années 60, à peu près, qu'on sent les premières prémices de la bascule en question, c'est-à-dire le moment où Hermès va prendre peu à peu la place de Prométhée, c'est-à-dire que la société sera structurée plutôt autour des métiers de la communication qu'autour des métiers de la production. Et c'était en effet dans les années 60 que les premiers prodromes, si vous voulez, de cette révolution qui a bouleversé évidemment notre temps a commencé.
Le livre est titré, j'avais omis de le dire en introduction, Pantopie de Hermès à Petite Poucette.
Oui.
Donc Hermès, c'était les années 60, Petite
oui,
Poucette.
C'est les années 2014.
D'aujourd'hui,
2013,
et c'est l'avenir, j'imagine.
Oui, c'est ça.
Vous pouvez nous parler un petit peu de... On venait de définir Hermès qui remplace Prométhée.
Oui.
Petite Poucette qui remplace-t-elle? Que nous annonce-t-elle?
Ben, c'est-à-dire que Petite Poucette, c'est l'héroïne de notre temps, ou l'héroïne de ceux qui ont... de la génération qui est née au moment où les nouvelles technologies... Elles existaient, mais elles ne touchaient que les grandes entreprises, les banques ou je ne sais quelle grande concentration, mais au moment où les nouvelles technologies sont rentrées dans le quotidien, dans la vie privée des gens et dans le foyer. Et par conséquent, ça doit dater des années 1985-90, vous voyez, et Petite Poucette doit avoir aujourd'hui entre 30 et 35 ans. 35 ans. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'une compagnie américaine nommée Minimoo a fait un sondage récemment et s'est aperçu que sur des milliers de gens, on s'aperçoit que les gens au-dessus de 35 ans tapent sur la console de leur portable avec l'index et qu'en dessous de 35 ans, ils tapent sur le portable avec le pouce. Vous voyez ? Et ça confirme tout à fait mon intuition. D'ailleurs, cette compagnie qui s'appelle Minimoo, vous avez l'air de ne la connaître. Elle est très connue, c'est la version française de Microsoft. Vous voyez ?
D'accord.
Évidemment, quand on traduit en français, c'est évidemment moins prestigieux. C'est pas une vantardise sexuelle, en effet.
Oui, une incidente, puisque une des caractéristiques du langage et de l'écriture de Michel Serres, c'est aussi qu'il emploie, d'abord, c'est qu'il emploie des mots scientifiques qui sont parfois, puisque c'est sa culture. C'est dans sa culture, qui sont parfois compliqués, donc ça ajoute à la complexité de sa pensée pour les lecteurs qui ne sont pas scientifiques ou qui sont exclusivement philosophiques ou exclusivement qui viennent d'un milieu scientifique. Mais l'essentiel, c'est qu'il crée, des mots, il crée un langage. Il y a une poésie dans sa manière d'écrire qui est parfois difficile, mais qui traduit aussi la difficulté qu'il y a à anticiper les bascules dont parlait Martin et dont a parlé Michel par la suite.
Ça permet aussi
Et pour donner un exemple, puisque c'est tout de même le titre, de la création, qui me fait penser à quelqu'un d'autre qui crée beaucoup de mots, qui est Montaigne, dans un autre genre, qui s'appuyait sur une culture antique. Michel s'appuie sur une culture qui n'est pas seulement une culture de l'Antiquité, mais une culture des sciences. Il crée le mot Pantopie, qui a donné le titre du livre.
Il faut peut-être l'expliquer un petit peu.
Oui, c'est ça, oui. Pantopie, c'est un mot que j'avais déjà utilisé dans un livre qui s'appelait « La légende des anges ». Et les anges étaient des messagers comme Hermès. Et j'avais créé ce mot-là, tout simplement pour dire qu'il y a un mot en français qui est très connu et très usité, c'est le mot « utopie ». Et utopie est une île, comme vous savez, une île non cartographiée sur un océan inconnu. Et cela veut dire en grec « nulle part ». Ou topos, vous voyez, rien, nulle part. Et pantopie, c'est exactement l'inverse, c'est-à-dire c'est partout. Et d'une certaine manière, le personnage qui serait l'habitant de la Pantopie s'appelait Passepartout. Il y a d'ailleurs un personnage réel qui s'appelle Passepartout, c'est le valet qui accompagne celui qui fait le tour du monde en 80 jours. Oui. Qui accompagne Phileas Fogg. Et Phileas Fogg est un noble britannique qui n'a pas beaucoup de sens pratique. Et il a toujours des difficultés quand il voyage. Mais il a un valet qui se débrouille toujours, qui a le système D, comme on dit pour des Français, et qui s'appelle Passepartout. Et qui lui permet de passer. Et je crois que Pantopie, c'est ça, passer partout. Voilà.
Et je voudrais juste ajouter quelque chose sur ce mot est en fait un peu étrange, pantopie, énigmatique. Il y a l'idée, tous les lieux, d'explorer tous les lieux du monde. Et c'est vrai que moi, ce qui m'a séduit dans le travail, dans l'œuvre de Michel Serres, c'est cette curiosité infinie qu'il a, on l'a dit pour la science autant que pour la philosophie, mais aussi pour la littérature, mais aussi pour le monde. C'est-à-dire, c'est un grand voyageur. Quand on ouvre un livre ou quand on entend Michel Serres, il revient soit d'un voyage, ça peut être dans une région française aussi bien que des États-Unis, ou du Grand Nord, mais ça peut être des voyages littéraires. Et il a cette agilité, cette curiosité pour le monde qui fait qu'il c'est un explorateur. Et on explore avec lui. C'est un mode de pensée assez singulier quand on y pense. C'est-à-dire qu'en règle générale, les philosophes ne sont pas des grands explorateurs. Ils choisissent d'ailleurs souvent, pour réfléchir, des objets de réflexion qui sont des objets assez ternes. C'est le cube de Husserl, c'est la table de Merleau-Ponty. C'est-à-dire, c'est des objets qui sont les objets qui les environnent dans leur bureau de travail, dans leur bibliothèque. Des objets qui sont, je dirais, très ils en disent des choses passionnantes et intéressantes, mais qui ne témoignent pas, je dirais, de l'ouverture du monde ou d'une curiosité pour le monde. Les personnages de Michel Serres sont souvent des personnages ou de la littérature ou des personnages réels de l'histoire qui témoignent du grand jeu du monde, des grands événements du monde. Et Pantopie, ça veut dire ça aussi. Je trouve qu'il y a un exercice de la pensée qui est très stimulant avec Michel Serres, c'est-à-dire qu'il fait le pari des possibilités que recèlent, des possibilités encore pas encore nommées que recèle notre monde. On l'a dit un instant, Hermès, c'est une figure, bien sûr, il s'inspire pour la nommer, cette réalité nouvelle d'une figure antique de la mythologie, mais il s'agissait de nommer ces nouveaux travailleurs de la communication, et il essaie de la nommer, mais il n'était pas encore présent, donc il s'agit de nommer du possible. Et Pantopie dit ça aussi, c'est-à-dire cette pensée, c'est essayer de mettre des mots, mettre des concepts ou des personnages ou des figures sur le possible, ce qui advient et le possible dont recèle notre monde. Et une dernière chose sur ce point, parce que ça me semble le singulariser, si je puis dire, dans l'espace le plus contemporain de la culture, en particulier de l'espace, je dirais, philosophique ou public français, il y a un climat aujourd'hui, ça ne vous aura pas échappé, en France, qui est résolument assez nostalgique, sinon cataclysmique sur un avenir, c'est-à-dire
Il y a
une pensée du déclin. Elle tient, à mon avis, à un élément fort. C'est bien entendu, nous vivons des transformations majeures, mais la majorité des intellectuels, Michel, vous ne me détromperez pas sur ce point, la majorité des philosophes et des intellectuels abordent les changements énormes que nous vivons avec les idées, les concepts du monde ancien. Et du coup, immédiatement, cela connote leur regard, leur perspective, d'un point de vue, je dirais, de surplomb, de jugement. C'est hier qui juge aujourd'hui et qui, ils nomment en réalité les réalités nouvelles avec le déjà nommé et le déjà pensé. Et c'est peut-être pour ça qu'ils passent à côté. Et donc, Pantopie dit cet exercice, et c'est peut-être, Michel, vous pouvez en dire un mot, parce que ça tient peut-être au plus profond de votre exercice de pensée. C'est quoi penser pour vous si cet exercice de nommer, de capter le contemporain sans le préjuger et avec des concepts déjà existants, d'où l'invention de nouveaux personnages d'ailleurs.
Il suffit de voir un petit enfant apprendre à monter à vélo. C'est très intéressant. L'activité qu'il a aussitôt quand il est assis sur la selle du vélo, c'est de garder l'équilibre avec les deux pieds. Et l'essentiel pour les parents, c'est leur tenir le dos pour qu'ils ne prennent pas appui sur les deux pieds et leur apprendre qu'on peut prendre un équilibre dans le mouvement. Vous voyez ? Et c'est ça exactement que vient de dire Martin. C'est-à-dire, si vous essayez de juger le monde qui est en train de se transformer avec les concepts d'autrefois, vous cherchez l'appui avec les deux pieds. Mais c'est exactement le contraire qui a lieu à vélo. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'on est obligé de partir à vélo, mais surtout ne pas mettre les deux pieds par terre, ce que fait inconsciemment le corps pour chercher une assiette, vous voyez, une sorte d'équilibre. Ah non, l'équilibre, il est dans le mouvement. Et par conséquent, c'est une nouveauté absolue. Voilà un exemple très concret de la situation. Et cette nouveauté, en effet, quand on veut l'apercevoir et qu'elle est montée à vélo, c'est un nouveau monde. Deux, quelque chose qu'on ne peut pas nommer, puisqu'on ne peut pas le nommer, à l'aide des concepts des deux pieds et de l'équilibre. Vous voyez ce que je veux dire ? Et c'est ça qui a rendu sans doute mon écriture difficile, parce qu'effectivement, elle était difficile pour moi, parce que je devais nommer un monde qui était en train de se faire, et je ne disposais pas des catégories anciennes pour le nommer, des catégories qui étaient reconnaissables, vous voyez ? Et voilà, l'exemple du petit enfant qui monte en vélo est très éclairant sur ce sujet. Mais d'autre part, pour les voyages, je voudrais aussi ajouter quelque chose à ce qu'a dit Martin. En effet, dans le pantopique, c'est-à-dire cette espèce de voyage, etc., il n'y a pas seulement le monde. On peut, en effet, explorer le Labrador ou l'Afrique du Sud, évidemment, mais il y a aussi deux autres voyages. Le voyage dans la totalité du savoir. Et donc, ce n'est pas seulement la science qui doit être instructive de la philosophie, c'est la totalité des sciences, ce qui n'est pas commode, c'est-à-dire l'encyclopédie, et être encyclopédique à la mode Diderot, d'Alembert au XVIIIe siècle, vous voyez. Et d'autre part, un voyage dans les cultures, c'est-à-dire dans les hommes, un voyage aussi dans le corps social. C'est-à-dire un philosophe doit avoir fréquenté aussi bien les SDF et les ouvriers que les ambassadeurs et les ministres ou les milliardaires, vous voyez. Un voyage dans le corps social et dans le corps culturel. C'est-à-dire être aussi bien passé chez les aborigènes ou chez les Indiens du Brésil, vous voyez.
Surtout que si j'ai bien compris, vous considérez que l'histoire se fait plutôt chez les petits que
chez les grands.
Que l'on nomme les grands.
Oui. Peut-être même ni des petits ni les grands, mais cette espèce de voyage dans le corps social qui fait qu'on s'instruit aussi bien ici qu'ailleurs, c'est-à-dire dans les bleus de chauffe que dans les uniformes de généraux. Vous voyez ce que je dis ? C'est trois voyages. Un, dans le monde. Deux, dans le corps social. Trois, dans le savoir.
Ce qui m'a frappé à la lecture du livre aussi, et je reviens sur cette idée de votre singularité dans le paysage intellectuel français, c'est que non seulement vous abordez ce nouveau monde et vous lui décrivez ce qu'il advient, mais on a le sentiment que vous l'abordez avec joie, optimisme, et qu'en quelque sorte le mot central serait le oui. On a l'impression souvent que le paysage intellectuel est dominé par le non. Que ce qui fait la vertu, c'est le refus, la posture d'opposition.
Du critique, oui.
De critique, et que vous êtes plutôt dans le oui, dans l'acquiescement,
oui,
à ce qui advient.
Bien sûr, je suis plutôt dans le oui, mais vous savez, bon, je vais vous avouer ma honte, j'ai 83 ans, et donc quand je suis né, c'était la guerre de 14 qui venait de se terminer, mon père avait été gazé à Verdun, ensuite ça a été la guerre d'Espagne, dont j'ai connu les réfugiés à la frontière espagnole. Ensuite, ça a été la Seconde Guerre mondiale. Ensuite, ça a été les guerres d'Indochine et d'Algérie. Et moi-même, à l'âge de porter les armes, j'ai dû faire la guerre d'Algérie et la campagne de Suez. Et par conséquent, de 0 à 30 ans, ça a été pour moi la guerre, la mort. Hein. Et depuis 65 ans, nous sommes en paix. Comment voulez-vous que je ne sois pas content ? Et les gens qui disent que c'était mieux avant, je leur réponds toujours, oh oui, il y a eu 150 millions de morts, on était gouvernés par Franco, Staline, Hitler, Mao Zedong, Pol Pot, rien que des braves gens, vous voyez. Non, avant c'était beaucoup moins bien, je vous assure.
mais toutefois, avant, il y avait une sorte de pensée du progrès qui semble avoir disparu.
Non,
permettait de regarder devant.
La question du progrès a été réglée dès la fin du 19e. Vous savez, dès la fin du 19e, déjà, regardez, les derniers romans de Jules Verne sont déjà pessimistes. Vous voyez, non, la pensée du progrès a été critiquée déjà dès la fin du 19e.
Oui, elle était critiquée, mais elle ne s'est installée dans la critique oui. profonde, dans le grand public, si oui. je puis dire, que depuis les années 80-90.
Exact.
Donc oui. il y a eu un moment encore de changement qui met encore plus en perspective l'attitude de Michel Serres devant, par rapport aux autres penseurs qui s'aventurent sur le terrain. Comme le précisait Michel, de la totalité d'ailleurs, enfin, ou plutôt qu'il ne s'y aventure pas, c'est-à-dire que la critique est une critique qui est toujours critique des sciences et des techniques, une critique qui est parfois juste, mais qui manque de substrat sur lequel s'appuyer. Mais je voudrais juste revenir sur ce que nous disions avant, et à savoir sur un aspect de Michel Serres qu'il a évoqué très rapidement, à savoir que c'est aussi un navigateur, mais un navigateur au sens strict du terme, c'est-à-dire que c'est un marin. C'est quelqu'un qui... Et il me semble, moi, que le marin est quelqu'un qui est plutôt optimiste, en quelque sorte, sur le monde, et que ça doit jouer sur sa manière de penser le monde. En tout cas, dans l'image du navigateur, elle est au sens strict, elle est aussi au sens figuré chez lui, bien sûr, et c'est un des aspects qui me fait entrer en empathie, en particulier avec sa pensée, quoi.
On navigue sur le web aussi maintenant. Oui, on navigue sur, c'est la métaphore absolument moderne aussi.
Il ne faudrait pas laisser croire simplement que la pensée de Michel Serres est juste un optimisme qui s'opposerait à des pessimismes. À mon avis, c'est quelque chose de plus profond et de plus philosophique. C'est-à-dire que vous avez raison de noter que l'idée du progrès ou la pensée du progrès s'est effondrée dans les esprits. Je crois que c'est très juste, mais... peut-être que le progrès ou la pensée du progrès était encore une manière de ne pas penser l'histoire. C'est-à-dire que peut-être que depuis que cette pensée du progrès est en quelque sorte une image prédéterminée de l'avenir que nous imposons à l'avenir, et souvent, quand vous regardez, on a anticipé juste, mais on a anticipé beaucoup à côté.
Et
voilà. Et donc, moi je dirais que le progrès est peut-être une première formalisation de notre croyance dans l'histoire, mais une première formalisation dont on peut se détacher peut-être avec une certaine lucidité, parce que c'était une manière de formaliser l'avenir qui ne respecte pas l'avenir. Et peut-être que depuis que cette pensée s'est effondrée, nous vivons dans un rapport au temps, et à l'avenir en particulier, où l'avenir s'impose à nous sous la forme de l'inconnu. Nous ne savons pas de quoi demain sera fait. Et c'est d'ailleurs pour cela que nous avons besoin d'esprits comme Michel Serres, qui essaye de dessiner quelque chose comme un avenir imprévisible, inconnu, qui ne ressemble pas au passé. Je voudrais prendre, pour donner un exemple très concret de l'aspect stimulant que ça peut avoir d'essayer de penser l'avenir philosophiquement, sans l'indexer sur un optimisme ou un pessimisme. Il y a un des nombreux personnages de la pensée de Michel, pour lequel j'ai beaucoup de tendresse, qui est le gardien de but au football. Et il raconte bien comment le gardien de but au football, pour lui, incarne ce qu'il appelle la position blanche, c'est-à-dire le gardien de but, il doit se mettre en état d'accueillir le ballon d'où qu'il vienne, à gauche, à droite, en haut, au-dessus. Et donc, il est dans une position à la fois d'extrême attention à ce qu'il va advenir, et d'extrême inconnu, puisqu'il ne sait pas si la balle va partir d'un côté ou de l'autre. Il appelle ça la position blanche, et c'est aussi une manière de dire que pour lui, la pensée est liée à le fait d'adopter une position dans le monde. C'est lié au corps, donc. C'est pas uniquement quelque chose de rationnel, d'intellectuel et de philosophique, c'est la manière dont je me positionne, je me mets en position blanche, c'est-à-dire en position d'accueillir l'inconnu, mais en même temps de me préparer à son advenu. Eh bien, il me semble que la manière dont Michel Serres nous installe dans le temps et dans l'histoire, est celle du gardien de football. C'est-à-dire, à la fois avec une curiosité, une attention, une vigilance extraordinaire, nous sommes fébriles quand il nous raconte, il nous fait des récits et qu'il essaie de nous dessiner l'avenir. Et en même temps, il ne fait pas de plan sous la comète en nous disant que tout ira bien. Il nous met en position blanche devant l'histoire. C'est très précieux, ça.
C'est ce que vous souhaitez, que le lecteur soit en position blanche ?
Oui, c'est-à-dire, lorsqu'il dit blanche, la catégorie philosophique correspondante, c'est le possible, vous voyez. C'est-à-dire que j'ai une affection très très précise pour une logique qui n'est pas de valeur, le bien, le mal, le vrai, le faux, mais une logique qui est définie sur un carré. Vous voyez, il y a le possible, l'impossible, le nécessaire et le contingent. Alors, l'impossible, le possible, c'est ce qui peut être. L'impossible, c'est ce qui ne peut pas être. Le nécessaire, c'est ce qui ne peut pas ne pas être. Et le contingent, c'est ce qui peut ne pas être. Et la catégorie la plus intéressante, c'est le contingent. Ça peut ne pas être. Voyez, mais c'est mon cas, c'est le vôtre, c'est le monde, c'est l'existence, c'est ça, c'est la contingence. Et l'intérêt, c'est de mettre en relation, effectivement, des pensées de la nécessité, qui sont démontrées, etc., qui sont dans le nécessaire, et puis des pensées de la contingence, c'est-à-dire de l'existence, etc., et puis des pensées de l'impossibilité, c'est-à-dire toutes les falsifications qui permettent de penser, mais surtout d'être tout le temps, dans ce possible-là, et qui est la blancheur de la position que vient de définir, en effet, tout à fait clairement, Martin. Oui.
Peut-être pour donner un exemple très concret de c'est quoi cette... parce que ça peut paraître un peu des positions de principe, c'est quoi essayer de penser comme ça en position blanche. Je voudrais peut-être que Michel nous expose un peu la manière dont il aborde une question qui est une des questions les plus brûlantes d'aujourd'hui et qui fait l'objet justement de discours assez pessimistes et cataclysmiques, qui est la question de l'écologie. Et il me semble que sur cette question-là, d'abord il a été... une fois de plus en avance, puisque dès les années 80, il se met à réfléchir à cette question comme un des enjeux politiques majeurs, mais d'abord un enjeu philosophique. Et il me semble que la manière dont il formalise la question même de l'écologie signe à la fois le fait qu'il n'est pas, il ne s'agit pas d'être pessimiste ou optimiste, mais d'abord de comprendre qu'est-ce qui est en train de se passer avec cette nature qui était en train de changer. Peut-être que Michel Say, oui, vous pouvez exposer pour vous qu'est-ce qui est advenu, oui, de la nature, oui, qui a changé par rapport à ce que à la manière dont on se rapportait à la nature, c'est il y a ça. Un siècle, deux siècles.
Oui, c'est ça. La question s'est posée assez rapidement pour des raisons justement scientifiques. À partir d'Hiroshima, effectivement, la question a été posée de notre rapport au monde, de notre rapport à l'humanité qui pouvait disparaître, évidemment. Mais tout d'un coup, toutes les sciences ont été saisies par la question éthique, que ce soit la chimie avec ses vaisseaux, que ce soit ensuite, etc. Bon. Alors, la question de l'écologie s'est posée pour moi deux fois. La première fois, elle s'est posée de manière juridique. Et de manière juridique, c'était intéressant. Pourquoi ? Parce que dans l'histoire du droit, au début, les gens qui étaient sujets de droit, on appelle sujets de droit ceux qui peuvent ester devant les tribunaux, c'était simplement le mâle quadragénaire et citoyen d'Athènes, ni plus ni moins. Tous les autres n'étaient pas citoyens de droit, ni les enfants, ni les femmes, ni les esclaves, ni les étrangers, etc. Et peu à peu, à mesure que le temps avance, jusqu'à la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui est postérieure à la Seconde Guerre mondiale, on arrive à déclarer que tous les humains sont des sujets de droit. Et d'ailleurs, on a avancé même plus que dans les humains. Est-ce que l'embryon est un sujet de droit, etc. Mais ce qui était certain dans cette pensée-là, c'est qu'il y avait au moins quelqu'un qui n'était pas sujet de droit, c'était les objets. Mais les objets n'étaient pas des sujets. Bien entendu. Et les objets, c'était l'ensemble de la nature. Or, précisément, dès le moment où vous posez la question de l'écologie, c'est-à-dire de la pollution et tous ces problèmes d'environnement, à ce moment-là se pose la question, mais alors, le rapport sujet-objet doit changer, forcément. Et cet ensemble d'objets qu'on appelle la nature, est-ce qu'elle peut devenir à un moment sujet de droit ? Et c'est la question que je pose dans le contrat naturel, c'est-à-dire, est-ce qu'on peut imaginer un procès? Et d'ailleurs, aujourd'hui, depuis déjà 20 ans, ça commence. Il y a des projets, des procès, par exemple, qui ont eu lieu par de Yellowstone contre utilisateurs. Vous voyez ? Et le parc de Yellowstone est considéré désormais comme un sujet qui peut attaquer devant les tribunaux. Vous voyez ? Alors là, c'est une manière, non pas écologique au sens militant, qui se pose, mais une question juridique. Et le deuxième geste qu'il faut, la deuxième question qu'il faut poser, c'est non pas comment on pollue, parce que la plupart des gens définissent la pollution, c'est la faute au CO2, c'est la faute au gaz de méthane, et ainsi de suite, vous voyez. La question philosophique, c'est pourquoi pollue-t-on ? Et c'est pourquoi j'ai créé un personnage qui s'appelle là le malpropre. Vous voyez, et où je dis, la question de la pollution est une question très très ancienne, qui est naturelle, et puisque les tigres, les chiens, ils pissent pour délimiter leur niche. Donc ils ont des déjections pour des questions d'appropriation de l'espace. Et si par hasard nous faisions comme les bêtes, c'est-à-dire que nous salissions l'espace pour nous l'approprier, voyez. Et du coup, le problème de la pollution se pose dans le problème de droit, mais alors non pas de droit de sujet de droit, mais du droit de propriété. Qu'est-ce que c'est que la propriété ? Alors, je donne comme théorème dans le livre, le propre, c'est le sale, puisque c'est en salissant qu'on devient propriétaire. Oui. Donc, toutes les questions d'écologie ne se posent pas là, d'après moi. Enfin, c'est pas dit que les autres manières de le poser n'étaient pas valables, c'est l'exemple qui me permet de répondre à Martin, en effet, de poser les questions un peu décalées par rapport aux manières dont on les pose d'habitude.
Et probablement l'écologie, enfin la pensée qui accompagne l'écologie, à savoir l'idée que nous allons vers un monde plus dur, explique le désintérêt, la désaffection pour l'avenir, nonobstant la désaffection pour le progrès qu'on trouve aujourd'hui en particulier chez les catégories de jeunes qui auparavant pouvaient lire des journaux de science, qui ne les lisent un peu moins aujourd'hui. Mais ce sur quoi je voudrais s'il veut bien entendre Michel Serres, c'est sur, au fond, lorsqu'on regarde la Renaissance, c'est évidemment un moment de bascule, enfin on l'a déterminé comme tel en tout cas, avec un certain nombre de personnages qui font un certain nombre de révolutions, qui sont la révolution du corps, la révolution des communications, malgré tout, enfin en tout cas découverte, avec Vézal, avec le monde qui change, qui se décentre. Qui se décentrent pas encore tout à fait, mais enfin, Copernic, Vézal, Mercator, et la perspective, et d'autres grands moments de bascule, dont Montaigne, sur le moi. Et aujourd'hui, et finalement, à la Renaissance, on va trouver deux personnages pratiquement en parallèle, en permanence, c'est-à-dire des gens qui vont, ou deux types de personnages, des gens qui sont persuadés qu'ils sont en pleine décadence, qui sont en pleine décomposition de leur monde. C'est les guerres de religion, c'est des tas de choses terribles. Et d'autres qui, au contraire, vont être d'un optimisme extraordinaire. Et la question, c'est est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment que nous sommes dans un moment, enfin, je dis vous pour Martin et Michel, pour Michel, que nous sommes dans un moment un peu semblable où on peut donc justement choisir d'être optimiste ou au contraire d'être pessimiste.
Il y a un joli parallélisme que me suggère effectivement Sven maintenant. C'est effectivement, si on veut définir la Renaissance de façon précise, on a trois grands personnages, là, c'est Vézal, qui pour la première fois fait de l'anatomie parce qu'il peut découper les corps humains, c'est Mercator, qui a le premier l'idée de faire une projection pour faire une cartographie correcte, et ensuite Copernic, qui invente un nouveau monde. Donc, un nouveau monde, une nouvelle planète, un nouveau corps. Un nouvel homme, un nouveau monde, vous voyez. Nous avons un nouveau corps avec la biochimie, depuis quelque temps. On a un nouvel univers avec le Big Bang et l'astrophysique. Et on a eu aussi une nouvelle Terre avec la manière dont les cosmonautes nous ont fait voir leur image, vous voyez. Donc on a une même rupture que celle de la Renaissance qui vient de définir. Et effectivement, à cette époque-là, il y a un certain Rabelais qui se moque de Janotus de Bragmardo, vous savez, des docteurs de Sorbonne, qui parlent encore latin, alors que lui raconte Gargantua et Pantagruel, et puis Montaigne, qui, avec des tas de personnages, etc., réfléchit sur cette époque-là. Alors on peut en effet filer un parallèle assez intéressant entre ce qui s'est passé à ce moment-là et pourquoi ça s'est passé. Ben, je crois que c'est parce qu'à la Renaissance, il y a eu un événement qui nous rapproche encore mieux de cette époque, c'est l'invention de l'imprimerie. Vous voyez, l'invention de l'imprimerie, alors que nous, on a Internet comme alors ça nous rapproche en effet pour le parallélisme, et que l'invention en effet de l'Internet, du web, etc., de toutes les nouvelles technologies, nous rapproche encore par l'invention de l'imprimerie de cette époque. Alors évidemment, ça fait un séisme extraordinaire, une bascule extraordinaire, qui partage tout d'un coup, comme une sorte de tranchée ou de crevasse, tous les penseurs. Il y a d'un côté les docteurs de Sorbonne, il y a toujours des docteurs de Sorbonne, et puis il y a des Montaigne, des Rabelais qui rigolent, que voulez-vous. Enfin, il y a une joie chez Montaigne, une joie chez Rabelais, qui n'est pas évidemment chez les médecins qui parle latin à la Molière, voilà, tout simplement. C'est la même crevasse. C'est intéressant, en effet. Merci de rappeler ce rapport-là.
Peut-être qu'il faut, justement, on touche là à un des éléments les plus contemporains, malgré la distance historique de ce que Michel, la révolution que Michel Serres essaie de cerner avec ce personnage de Petite Poucette, qui, ce n'est pas pour rien que cette figure a trouvé un accueil très très profond, je crois, aujourd'hui dans la conscience publique. C'est un livre qui a fait l'objet d'un très, très grand accueil. Et je crois parce que Michel Serres touche à une transformation majeure, mais de nouveau, déjà, le service qu'il rend, c'est de nommer philosophiquement cette transformation. Tout le monde parle aujourd'hui d'Internet, du réseau, de ce que ça change, etc. Lui situe les choses en mettant en perspective la révolution numérique avec deux précédentes révolutions qui ont été les deux grandes révolutions, les deux grandes révolutions du signe qui a connu l'humanité. Donc il met en perspective large, qui sont l'invention de l'écriture d'abord. Énorme bouleversement. Nous n'étions pas faits pour écrire. Et nous avons alloué des neurones, si je puis dire, des neurones qui étaient en réalité initialement destinés, d'après ce que nous disent les neurologues, à la reconnaissance visuelle des choses, à la vision. Nous avons alloué des neurones au déchiffrement de signes artificiels et inventés. Énorme révolution qui est l'écriture, c'est quand même peut-être une des plus grandes révolutions que l'humanité ait connue. Deuxième révolution du signe majeur, dit Michel Serres, c'est évidemment l'imprimerie. C'est comment est-ce que c'est qui prolonge la première révolution en donnant un accès à ce monde du signe démultiplié. Et puis, la révolution numérique, elle n'est pas seulement une révolution technique ou une révolution sociale, une révolution politique. Elle est fondamentalement une nouvelle révolution du signe, qu'est-ce que ça change. Moi, ce que j'en comprends à travers le personnage de Petite Poucette, c'est justement que les livres basculent dans un nouveau, où le savoir, c'est ça, le statut du savoir se transforme. Et là, je serais peut-être plus ambivalent ou peut-être moins optimiste que ne peut l'être Michel Serres ou que ne peut l'être ce personnage à la fois charmant et joyeux qui est la Petite Poucette, puisque Michel Serres aborde ça avec une grande confiance. Et je fais confiance à sa confiance, mais en même temps, quand je vois mes enfants qui sont plusieurs heures par jour devant des écrans, qui sont fascinés par les jeux électroniques, qui sont happés par ce monde-là, je crois, comme de nombreux parents, j'ai quelques inquiétudes. Et Michel Serres lève quelques-unes d'entre elles, mais pas toutes. Et l'inquiétude la plus sourde et la plus forte, à mon avis, c'est cette idée qu'avec ces nouveaux outils, avec en particulier ce portable qui nous donne accès à la totalité du savoir, nous avons fait du savoir quelque chose de disponible. Nous avons transformé le savoir en un objet sous la main disponible. Et un philosophe qui était plutôt dans un état d'esprit un peu différent de celui de Michel Serres, qui s'appelle Martin Heidegger, considérait justement que la technique, c'est quoi ? C'est un vaste processus d'arraisonnement, de maîtrise du monde qui rend les choses disponibles. Ça veut dire quoi, les rendre disponibles ? C'est-à-dire faire en sorte que les choses nous apparaissent comme étant destiné à être disponible. Aujourd'hui, quand vous interrogez un enfant, eh bien, il ne se souvient peut-être plus nécessairement de la telle ou telle date, mais il sait que c'est disponible. Et c'est précisément parce qu'il sait que c'est disponible que peut-être il s'épargne la nécessité d'apprendre. Et là, moi, je crois, comme de nombreux professeurs d'ailleurs, je serais plus mitigé, plus ambivalent. Donc, ce soit troisième révolution des signes et l'effet qu'elle peut avoir sur notre rapport au savoir, est-il si sûr que cette disponibilité nouvelle du savoir, qui à la fois le rend disponible, c'est un progrès bien entendu, ne crée pas des nouvelles pathologies ou des nouvelles déficiences quant à l'accès, quant à la curiosité pour ce savoir qui est de toute façon là sous la main?
Alors, c'est vrai que la question est sérieuse, il faut, évidemment. C'est toujours ma petite fille qui apprend la bicyclette, c'est-à-dire est-ce que le nouveau monde de l'équilibre par le mouvement est très différent de la statique avec les deux pieds. Voilà, c'est toute la question. Alors c'est vrai, Martin a raison, c'est une révolution cognitive de première importance qui transforme certainement non seulement le savoir, non seulement l'accès au savoir, mais certainement aussi l'ordre neuronal. De la même façon que, d'ailleurs, Dehaene, dont tu as parlé, notre collègue de l'Académie des sciences, se pose la question à la fin de savoir que ces neurones de l'écriture, les neurones de la lecture dont il parle, à quoi ils servaient ces neurones avant l'invention de l'écriture, vous voyez ? Et je crois qu'il doit y avoir des transferts neuronaux, en effet, de la même façon, lorsqu'on a inventé l'imprimerie et lorsqu'on invente... D'ailleurs, je crois savoir qu'aujourd'hui, on peut distinguer, en effet, des neurones qui sont activés par les nouvelles technologies qui n'étaient pas activés par les anciennes. Donc, ça fait un changement. Alors, je voudrais rassurer quand même un peu mon ami Martin devant ses enfants, parce que moi qui appartenais à une famille où il n'y avait pas de livres, je me rappelle ma grand-mère qui levait les bras au ciel en disant « Ah, ce Michel, il va se rendre fou. Il est tout le temps dans ses livres. Vous voyez, il est fasciné par ses livres. Il ne regarde jamais la fenêtre. Mais qu'est-ce qui se passe ? C'est épouvantable. » Et donc, il y avait un peu la même inquiétude chez ma grand-mère. Mais loin de parler de ma grand-mère, il y a quelqu'un qui a parlé de ça de façon géniale autrefois. Et qui est l'auteur peut-être du plus grand livre de l'humanité, c'est Cervantes. Cervantes, qu'est-ce qu'il a inventé comme personnage ? Il a inventé comme personnage un Don Quichotte ivre de livres, et qui, pour qui le monde a complètement disparu, et pour qui les moulins à vent se transforment dans des chevaliers qu'il faut combattre. Vous voyez, c'est-à-dire, non seulement il est... Et il est ivre de livres, mais le monde entier est devenu un livre. C'est-à-dire, le monde entier est devenu un roman de chevalerie. Et il y a à côté de lui un bon gros serviteur qui est ajuché sur son âne et qui... T'as dulciné, c'est pas du tout une princesse, etc. C'est une bergère crottée qui suit ses poutons. Je suis allé la voir, elle pue, vous voyez. Et donc, il y a cette bascule entre il y a le réel et tu es fasciné par la technologie. Et c'est vieux comme la Mancha, c'est vieux comme Cervantes, c'est vieux comme. Tu vois, le rapport qu'il y a toujours en équilibre entre Platon et Socrate. Ben, Socrate qui dit « Non, je ne veux pas écrire. » Et il est toujours avec la parole, vous voyez. Il y a le couple Socrate-Platon est reproduit tout d'un coup dans le couple Cervantes-Sancho Panza, et en ce moment, il est reproduit dans le couple Martin Le Gros et sa fille, vous voyez. Et c'est un peu toujours le même profil de ce déséquilibre devant une nouveauté. Voilà. Ça, c'est très intéressant de voir d'habiller Martin Le Gros en Sancho Panza.
Alors, je veux redonner une armure aussi à Martin, parce que il a probablement un peu des deux, et plus du Don Quichotte que du Sancho Panza, à mon avis, en particulier sur cette question, parce que si tu as vu des jeunes gens ou des jeunes filles de 10 ans, 12 ans, 15, 14 ans, 15 ans en train de jouer aux jeux vidéo, le rapport aux jeux vidéo n'est absolument pas le même que le rapport au livre. Il y a des pathologies réelles qui sont...
Oui,
alors que des pathologies du livre, franchement, la pathologie de Don Quichotte, c'est la seule qu'on peut... Elle est vraie, c'est juste...
Don Quichotte...
Le monde du livre tel que tu le décris, et se projeter dans le conte, se projeter dans... Très bien, ça existe. Ça continue d'exister, d'ailleurs. Oui. Néanmoins, tu sors du monde du livre et tu ne sors pas du monde... Il y a une glue dans le monde de la vidéo qui n'est, à mon avis, pas la même. Oui. Mais c'était juste pour tempérer un peu ton optimisme sur... Pas ton optimisme. Et sur le fond, c'est sur le fond... Je suis assez... je salue ton optimisme et ta pensée. Je pense que c'est juste de penser comme ça. Néanmoins, les pathologies ne sont pas les mêmes.
Très différent. Il n'y a pas de doute là-dessus.
Si il nous reste quelques minutes, si vous voulez nous présenter un dernier personnage qui nous éclaire sur l'avenir, hormis Petite Poucette qui était évidente, lequel choisiriez-vous?
C'est-à-dire, celui qui nous a donné le plus de mal quand on a discuté avec Martin et Sven, ça a été celui que nous appelons le grand fétiche. Et ça, ça a été un chapitre très difficile à monter. Le grand fétiche, c'est simplement notre rapport, justement, écologique ou environnemental à la planète. Et alors, nous étions partis de l'idée que la philosophie de tout temps avait partagé les choses entre les choses qui dépendaient de nous et les choses qui ne dépendaient pas de nous, et que peu à peu, à mesure que le temps avançait, on avait conquis tellement la disponibilité dont parlait Martin, que de plus en plus de choses dépendaient de nous. Et la modernité, tout d'un coup, nous met devant un événement extraordinaire et parfaitement nouveau, c'est que nous dépendons des choses qui dépendent de nous. voyez, par une sorte de feedback un peu, enfin...
L'interdépendance.
Un cercle vicieux, spirale, oui. Un cercle assez vicieux. Et alors, évidemment, je compare le fait de dépendre les choses qui dépendent de nous, je le compare à la présence d'un fétiche. En effet, qu'est-ce que c'est que le fétichisme ? C'est, je suis devant une statuette dont je sais très bien que c'est mon voisin qui l'a sculptée dans le bois, et pourtant je me prosterne devant elle parce que je crois qu'elle est investie de pouvoir sacré ou de pouvoir divin. Et comment ça se fait que je me prosterne devant quelque chose que j'ai fait, enfin que quelqu'un que je connais a pu faire ? Eh bien, c'est la même chose, c'est-à-dire cette chose dépendait de nous et pourtant nous dépendrons d'elle, vous voyez ? Et d'une certaine manière, le rapport que nous avons aujourd'hui aux choses est un rapport fétichiste, et alors ça pose le problème de la religion, tout simplement. Et là, le chapitre a été difficile à faire parce qu'effectivement, il y a un décalage sur la question du religieux qui me paraît qui est très importante. C'est bien ça qui a paru difficile.
Oui, j'ouvre juste une parenthèse sur cet aspect qui a eu une traduction scientifique qui est phénoménale, qui est la mécanique quantique. C'est-à-dire que le fait que l'observateur perturbe la mesure, c'est une autre manière de dire ce que tu viens de dire. La mécanique quantique, c'est tout le monde qui nous entoure et le monde de la communication. Mais je reviens sur la religion et sur le fétichisme.
Non, je voulais juste donner, moi qui suis de moins de culture scientifique, une image qui, je crois, expose très très bien ce que vient de dire Michel Serres. C'est un événement que nous avons tous vécu et qui est peut-être un des grands événements métaphysiques de notre temps, c'est nous avons contemplé la Terre du point de vue comme si nous ne l'habitions plus. C'est-à-dire que nous avons produit une image. La Terre que nous contemplons depuis les étoiles, c'est une image que nous avons produite. Et donc, elle est devant nous comme un objet presque esthétique, mais en même temps religieux, comme le dit Michel, mais d'une religiosité nouvelle. Nous la contemplons avec une énorme admiration, aussi avec la crainte, puisque nous avons le sentiment qu'elle est devenue dépendante de nous, comme le dit très bien Michel Serres, et en même temps, avec nous la produisons, elle est dépendante de nous puisqu'elle est en train de périr peut-être, et en même temps avec une crainte religieuse d'être devant quelque chose qui nous échappe, qui est au-delà de nos pouvoirs. Et je trouve que si le philosophe peut déjà, ce qu'a fait Michel Serres, nommer cet événement, juste cette photo qui était cette photo que aucune humanité n'avait contemplée avant la nôtre. Mmh. Nous avons peut-être changé de condition depuis que nous avons vu cette image, et Michel Serres nous permet de nommer à la fois cette image et la nouvelle condition qui est la nôtre depuis que nous avons contemplé cette image.
Je crois que les philosophes qui nous ont précédés, on devrait tous les classer selon la catégorie de l'horizon. C'est-à-dire, pour suivre la métaphore que vient d'utiliser Martin, lorsque nous voyions la Terre autrefois, elle avait toujours un horizon, que nous soyons marins ou que nous soyons agriculteurs, ou etc. Il y avait toujours... Et tout d'un coup, on voit la Terre sans horizon, c'est-à-dire comme un objet. C'est-à-dire, quand il y a un horizon, on est plongé, on est un être au monde, on est plongé dans le monde. Et tout d'un coup, il y a un point de vue sous lequel il n'y a plus d'horizon. Voyez, et alors, il y a des philosophies avec horizon, et désormais, on a une philosophie nouvelle sans horizon. Vraiment, c'est intéressant.
Et qui, bien entendu, donne une forme de vertige.
C'est-à-dire, le terme horizon en grec veut dire la limite, et on aurait dépassé une certaine limite. Ouais, c'est ça la question. Alors, vertige ou pas, vous savez, le vertige, c'est très connu pour les montagnards. Le vertige peut être une maladie qu'on a sur la terre ferme, quand on est dans la plaine, on peut avoir des vertiges. Mais quand on est en montagne, c'est pas le vertige, c'est de l'acrophobie. C'est-à-dire, on a peur du vide. Et c'est très différent. Il ne faut pas appeler vertige quelque chose qui n'est pas pathologique, mais qui est lié à la situation où on est lorsqu'on est dans une paroi. C'est acrophobie, voilà.
Bon, en tout cas, ce qui est certain, c'est que la lecture de votre livre nous aide à nous délivrer de nombreuses phobies communes aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle les références du livre. Le livre s'appelle donc « Pantopie de Hermès à Petite Poussette », entretien de Michel Serres avec Martin Legros et Sven Ortoli qui officient à Philosophie Magazine. Merci à tous les trois. C'est aux éditions Le Pommier.
Merci à vous.
Merci à vous. Merci beaucoup.
Merci.